Chapitre 3. On la forme. Mon Dieu, je ne demande pas mieux que de les apprendre, vos coutumes insulaires, fit Thérèse, qui pensa que pour n'être pas trop piétinée, elle ferait bien de sortir bec et ongles. Insulaires, s'écria Julien, s'imaginant sans doute que cet adjectif était parent d'insolent ou d'insultant. Insulaires, qu'est-ce que cela veut dire? Vous pourrez le chercher dans votre dictionnaire. Alors, Julia fit une grimace décidément épouvantable qui lui retirait les lèvres sur les dents et les gencives, lui haussait les pommettes, lui enfonçait la cavité des yeux sous les sourcils. « Écoute, dit Conny, tu sais que je n'aime pas ta grimace de tête de mort, ça m'impressionne et ça fait peur à mademoiselle. »« Peur, non, protesta Thérèse. Mais, Julia, vous ne devriez pas vous en laidir encore, la nature y a suffisamment pourvu. » Aussitôt, les traits du désagréable visage reprirent leur place normale, une onde de colère passa sur les joues et dans les yeux. Et puis, il se fit un immense silence. Il faut admettre tout de suite que Thérèse Lemaire, sensible, fière et combative, même agressive sous la gangue de sa timidité, n'était pas venue à Londres pour s'occuper de pédagogie, mais pour voir le monde et, si possible, en faire le tour. Son diplôme, ses quelques talents, devaient lui servir à gagner son pain. Mais elle ne possédait aucune qualité d'éducatrice et n'en souhaitait point. Elle avait peu d'empire sur elle-même et ses réactions étaient d'une extrême vivacité. « Vous êtes méchante, mademoiselle !» fit Conny avec un petit sourire ambigu. « Peut-être, comme il est dit dans la chanson, cet animal est très méchant, quand on l'attaque, il se défend. » « Console-toi, Julia, voilà mademoiselle qui se traite d'animal. Que veux-tu de mieux ?» s'esclaffa Conny, renversée sur sa chaise qui glissa, et l'héritière du nom Naïmol se trouva par terre. Cela fit une diversion. Thérèse Lemaire se demandait comment elles en étaient venues toutes les trois à cet échange d'aménités. Elle regrettait déjà la flèche assez venimeuse qu'elle avait décochée à cette pauvre fille, bien laide en effet, mais qui n'était pas coupable de son physique. Oui, c'était lâche, concéda-t-elle à sa conscience. Mais à la fin, ces deux petites poseuses m'énervent, et dire que je ne suis débarquée ici que de ce matin. Après le thé, on se mit au travail. Conny joua des gammes et des arpèges sur le vieux piano d'études assez fêlé, et Julia peina dans les dédales de la grammaire allemande. « Demain, ce sera plus amusant, » dit Conny en interrompant ses exercices. « Nous allons toutes les quatre au cours du prince charmant. »« Tiens, qu'est-ce qu'on y apprend ?» demanda Thérèse, qui cherchait à retrouver sa bonne humeur. « Le français, la conversation, l'histoire, la littérature, toujours et exclusivement de France. C'est un cours très coté. » Il paraît que le père déjà, le vieux monsieur Sylvain, était tout à fait la coqueluche des jeunes filles de son externat. Le fils a succédé. C'est lui le prince charmant, le flirt de notre vénérée mère. Vous avez l'air interloqué, chère mademoiselle. Il y a de quoi, dit Thérèse. Mais non, un flirt platonique. C'est bien ainsi qu'on dit. Comment trouvez-vous maman? Grand chic, n'est-ce pas? Exotique. Elle est née aux Indes. C'est ce qui lui fait ce teint mat. Nous n'avons pas du tout le teint anglais. Chez Julia, ça tourne au vert. Chez moi, c'est la nuance biscuit. Les deux petites sont mieux, ces petites misérables. Mondi, c'est des fraises dans de la crème et est-elle blancheur et fadeur d'une poignée de neige. Nous, moi et Julia, nous avons du piment. Vous ne trouvez pas? Laisse-moi apprendre mes déclinaisons. Fit Julia lamentable. Qu'est-ce que je vais prendre de R là au bord si je ne le sais pas? Le soir, après son dîner solitaire d'institutrice dans la salle d'études, Thérèse remonta chez elle, s'assit devant sa petite table et se mit à écrire une lettre sans grand entrain. Elle en était à dépeindre pour sa correspondante la maison des miroirs et la toilette rouge de Madame Naïmol quand elle laissa tomber sa plume, saisie d'une subite détresse. Était-ce le mal du pays qui s'abattait sur elle? Était-ce un dégoût de l'entourage, de ses filles effrontées, peut-être vicieuses, de ses domestiques, complices goguenards, de cette femme du monde élégante, féline, aux yeux brûlants d'un feu énigmatique? « C'est trop, c'est trop !» murmurait Thérèse, la tête dans ses mains, la lettre et la plume poussées de côté avec le buvard. « C'est trop à la fois, je ne comprends pas. Où suis-je tombée ? Je me trompe sans doute à force d'être ignorante. Jusqu'ici, je n'ai connu que de simples braves gens. Le grand monde est-il ainsi ? Ces jeunes filles, ces affreuses jeunes filles qui ont une si bonne tenue et qui sont au fond immondes ? Non, je ne dois même pas penser ce mot. Des domestiques, une femme de chambre, un butler, les ont instruites de vilaines choses. Elles sont plus innocentes que leur langage. Révoltant, le flirt de leur vénérée mère. Et cette détestable Julia qui s'intéresse aux filles du trottoir. Ces lettres par contrebande du prie-Dieu. Ah non, je ne dois pas, je ne peux pas rester ici. Seule, toute seule. Il faut me ressaisir, je suis toujours exagérée. Et je suis fatiguée. Au fond, j'ai lutté tout le jour pour me tenir en bride, sans y réussir. Oh, ça fait du bien de pleurer.
Elle sanglotait comme une petite fille, le front sur ses deux mains jointes, au bord de la table. Un léger coup frappé à la porte la fit se redresser comme un ressort.
« N'entrez pas ! » s'écria-t-elle.
La porte s'ouvrit comme si on avait crié d'entrer, au contraire, et Madame Naïmol, en grande décolleté du soir, apparut sur le seuil, sinueuse et souriante.
« Comment, vous avez pleuré ? Déjà ? Moi qui ai fait tout mon possible pour que vous soyez heureuse sous notre toit. N'avez-vous pas une gentille chambre ? J'avais donné ordre qu'on vous monte un bon dîner. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? »
fit Madame Naïmol d'une voix caressante, s'approchant de Thérèse par derrière et, lui prenant la tête dans ses deux mains pour la relever, la tourner un peu, puis la considérer de plus près en se penchant.
« Ce n'est rien !» protesta la jeune fille, s'épongeant les yeux avec son petit mouchoir en tampon. « Ce n'est rien du tout, le dépaysement. J'avais crié, n'entrez pas. Ah, moi, quand j'ai frappé à une porte dans ma maison, je n'écoute pas ce qu'on me répond. J'entre, c'est mon droit. » prononça la dame d'un ton assez hautain.
« J'aurais dû mettre le verrou, je le ferai une autre fois, » murmura Thérèse, qui aurait voulu ajouter «
« Suis-je chez moi dans cette chambre ?»«
Non, non !» reprit Madame Naïmol, de nouveau apaisante et douce. « Il n'y aura pas d'autre fois, vous ne pleurerez plus. Je ne veux pas que vous gâtiez ces jolis yeux, ces belles joues. Tenez, voici un petit baiser qui vous rafraîchira le teint. »
Thérèse n'eut pas le temps de se dérober à cette caresse subite et surprenante. Les lèvres rouges de la belle idole se promenèrent sur sa joue du haut en bas, comme un chatouillis plutôt que comme un baiser.
Pauvre petit chat tout seul, mais on va l'apprivoiser ce petit chat. Je veux être votre amie, dites. Entre nous, ici, je vous appellerai Thérèse et vous me trouverez un petit nom d'amitié. Voulez-vous m'appeler Bibi ?
Thérèse était tellement énervée et stupéfaite qu'elle ne savait plus à quoi elle en était. Elle éclata de rire. Il y avait bien encore un sanglot au fond de ce rire, mais Madame Naïmol sembla y entendre un acquiescement.
« Ça va mieux, » dit-elle. « Maintenant, si Bibi ne vous convient pas, voulez-vous Indiana ? C'est un joli nom, c'est le titre d'un beau roman de passion et je suis née aux Indes. Essayez, Thérèse. » « Non, non !» protesta la jeune institutrice. « Cela ne convient pas du tout. Je ne vous connais pas. » « Je veux dire que vous ne me connaissez pas assez. »« Eh bien, faisons connaissance. Offrez-moi une chaise d'abord. »
Thérèse Lemaire venait de se mettre debout, repoussant derrière elle la petite table, car son étrange visiteuse laissait peu d'espace entre elles deux.
« C'est un petit canapé qu'il nous faudrait pour causer gentiment. Je m'assieds sur le lit, vous permettez ? Ça se fait beaucoup en Angleterre. Venez vous asseoir à côté de moi. »
« Je suis bien ici, madame, » dit Thérèse, raide et droite, sur sa petite chaise cannée en blanc et vert, « naturellement. »
Madame Naïmol s'arrangea une pose de sultane, en biais sur le lit, une jambe pliée, l'autre pendante, le coude dans les oreillers, car la femme de chambre avait déjà fait la couverture.
Maintenant, causons. Je ne vous ai pas vu de tout le jour. J'ai lunché en ville, j'ai fait des courses, j'ai dîné en tête à tête avec le seigneur de ces lieux. Vous n'avez pas encore vu mon mari ?
Non, madame, pas encore. C'est un très brave homme, tout à fait insensible.
Quel âge me donnez-vous, ma belle pêche, où je voudrais mordre ?
Thérèse calcula vite. Connie a 16 ans, on se marie jeune aux Indes, à 17-18 ans.
Peut-être 34 ans, madame.
C'est exact, hélas, mais vous pourriez ajouter que j'en parais 30.
Voyons, par charité.
Moi, je veux bien, madame, vous en paraissez 30.
Je vous dirai un secret, poursuivit Indiana en baissant la voix. Une bohémienne m'a prédit que je connaîtrai l'amour assez tard, après 30 ans.
Thérèse était encore à 20 ans, dans sa candeur première. Elle songea.
Je ne comprends pas, une femme mariée, mère de 4 filles, n'a pas connu l'amour.
Non, je ne comprends pas.
Et ce que ça m'est égal, d'ailleurs.
Donc je ne désespère point, continua la romantique personne. J'ai un flirt, ce n'est pas l'amour, le grand amour. Un jeune Français très bien, qui m'est tout dévoué. Nous avons fait un voyage ensemble l'été dernier, à Bayreuth, pour entendre les Nibelungen. J'avais avec moi Connie et ma femme de chambre. C'était une décence absolue. Dans une excursion à la campagne, pour nous remettre de cette musique, nous avons été trempés comme une soupe par un orage. On nous a fait un grand feu dans l'auberge, nous nous sommes séchés devant, tous les quatre en... Non, pas exactement en chemise, mais enfin dans des dessous très minces. C'était très captivant. C'était très captivant. Mais riez donc, belle pêche.
C'est curieux, je n'en ai pas envie. Il faut croire que j'ai sommeil. Il doit être passé 10 heures.
Oui, 10 heures et quart, fit Thérèse en tirant sa petite montre de sa pochette.
Nous sommes dans l'époque lointaine où la montre bracelet, la lampe électrique, l'automobile n'existaient encore que dans les visions des inventeurs. On gratta à la porte. Madame Naïmol se leva d'un bond, s'élança vers la seconde chaise, s'assit.
« C'est moi !» fit la voix de Connie. « Maman, est-elle chez vous, mademoiselle ?»« Mais oui, je suis là. Entre, ma fille. Vous permettez, mademoiselle le maire ?»
demanda l'Indiana de tout à l'heure, transformée subitement en mère de famille, digne et cérémonieuse.
Connie se montra, en peignoir et cheveux nattés, à ses pauvres nattes.
« Papa vous cherche, maman !»«
J'en suis touchée, sauve-toi. Où est le seigneur du logis ?»«
Dans la salle d'études. Il croyait vous y trouver avec mademoiselle. »«
C'est bien, je descends. »